Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Plusieurs centaines de milliers de personnes attendues à Rome à l'occasion des canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II le 27 avril. Le Vatican va s'efforcer d'informer les pèlerins sur les questions les plus diverses allant de la logistique à la spiritualité. En France, l'heure est au bilan après la déroute de la gauche municipale. Nous nous intéresserons dans ce magazine au record d'abstention. Ceux qui n'ont pas voté sont-ils des irresponsables, des contestataires ou des déçus de la politique? Nous avons posé la question au rédacteur en chef de la revue Études. Dans cette émission, nous reparlerons de la Syrie, non plus personne ou presque ne parle. Nous reparlerons des migrants qui sont souvent la cible de bandes criminelles, de tentatives d'extorsion, de viol et même de meurtre. Et nous verrons qu'il ne faut pas confondre les vocations religieuses avec le bénévolat. La mise en garde a été lancée par le pape François. Cela fait des semaines que les hébergements de Rome affichent quasi complet pour le week-end de la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II les 26 et 27 avril. La ville éternelle se prépare à un afflux qui n'aura pas d'équivalent depuis les obsèques de Jean-Paul II en 2005. La canonisation de ce dernier devrait attirer des centaines de milliers d'Européens et tout d'abord des Polonais. Quant à Jean XXIII, il est toujours très aimé en Italie. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège n'a pas exclu par ailleurs que Benoît XVI puisse être présent lui aussi sur la place Saint-Pierre. À l'approche de cet événement, les initiatives se multiplient. Un état des lieux a été présenté en conférence de presse ce lundi au Vatican. Xavier Sartre.
Les initiatives concrètes, voilà ce que l'évêque de Bergame a décidé en élevant un monument à la charité, vertu essentielle que nous enseigne cette canonisation de Jean XXIII. Un monument particulier puisque le diocèse a décidé de se séparer de quelques-uns de ses biens afin d'aider très concrètement des communautés ecclésiales. Tout d'abord, à Haïti, en versant 800 000 euros pour l'entretien d'une école déjà construite par le diocèse, mais aussi en Albanie, en construisant cette fois une église et un centre pastoral pour une valeur de 600 000 euros, et puis bien évidemment à Bergame, où une caserne sera rénovée pour accueillir les plus pauvres. Mais l'initiative la plus originale reste le fonds pour le travail, qui sera alimenté par les 900 prêtres du diocèse qui, le jeudi saint, verseront un mois de leur salaire, sans compter par ailleurs la vente de biens immobiliers pour un total de 3 millions d'euros. Pas de mots, mais des actes donc, de la part de Bergame. À Rome, on ne veut pas perdre de vu que la canonisation des deux papes est une grâce de Dieu. Pour cela, une veillée de prière sera organisée le samedi précédant la cérémonie dans toutes les églises de la ville afin de découvrir pourquoi Jean XXIII et Jean-Paul II sont des saints et quel est le message de sainteté qu'ils nous offrent. Le mardi 22, une rencontre avec les jeunes se tiendra en la basilique de Saint-Jean-de-Latran en présence des deux postulateurs et du cardinal Valini, vicaire pour le diocèse de Rome. Le diocèse s'occupe aussi de la communication de l'événement en créant un site internet disponible aussi en français, un compte Twitter, une page Facebook et une application pour téléphone, sans compter les contenus multimédia disponibles sur YouTube, Instagram et Storyfy. Autant dire que le diocèse s'est préparé sur tous les fronts pour ce grand événement.
Les estimations les plus folles circulent sur le nombre de personnes attendues, mais le Vatican se veut rassurant et encourage les fidèles à ne pas avoir peur de faire le déplacement. Parmi ces fidèles, il y a aussi bien sûr de nombreux Français et francophones, et pour les accueillir, la communauté chrétienne française de Rome a prévu plusieurs manifestations dans les 5 églises françaises et au séminaire. Des événements auxquels tout le monde est invité, comme l'explique Bernadette Vita. Elle est la responsable du centre pastoral d'accueil de Saint-Louis des Français.
Tous les gens seront les bienvenus partout. Il y aura aussi une distribution gratuite du livret du pèlerin qui donnera tout le programme de tout ce qu'on peut faire à partir du vendredi 25 avril quand on arrive à Rome jusqu'au lundi matin 28 avril. Il y aura des catéchèses, il y aura des messes, il y aura des vêpres, il y a des rencontres possibles. Et puis, il y aura un écran géant dedans et dehors pour que les gens puissent suivre la cérémonie. Parce qu'il faut bien dire aux gens qui vont écouter et entendre toutes vos émissions que physiquement, place Saint-Pierre, ça ne sera pas facile. Et évidemment, il y aura énormément de monde. Et qu'en même temps, on peut très bien vivre ça dans un autre endroit, même si Saint-Pierre, évidemment, reste le symbole le plus important. Donc voilà, le programme, je pense qu'il est bien plus facile que les gens aillent voir sur Internet, en 3xW, canonisation au pluriel, rome-avril2014.fr, et ils verront eux-mêmes tout ce qui est proposé, messe, confession, catéchèse, conférence, moment de prière, expo, etc. jusqu'à un rallye moto, parce que les Français de Rome sont sportifs.
Après, au niveau du profil, un petit peu, ils viennent d'où, en fait, en France, ces pèlerins ?
Oh, il y a de toutes les régions de France, et Dieu merci. Donc, il y a de toutes les régions, il y a toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui viennent parce qu'il y a Jean-Paul II, parce que, bon, Jean-Paul II, c'est quand même... la génération Jean-Paul II, elle a 35 ans aujourd'hui, 40 ans, ce sont des pères et des mères de famille, donc il y a énormément de familles. Alors après, c'est vrai que historiquement, enfin, dans la chronologie, Jean XXIII, c'est un petit peu plus vieux, ça touche sûrement moins les jeunes, mais il y a toutes sortes de personnes. Ça va de la personne toute seule qui fait sa démarche jusqu'à des groupes de 50, voire 100 personnes, des communautés. Il y a des centres d'accueil qui s'appellent centres d'accueil Jean-Paul II en France ou des communautés. Donc il y a vraiment toutes sortes de gens, bon, et heureusement.
Et là, au niveau des personnes qui sont attendues, au niveau de la communauté française, vous avez un petit peu un ordre d'idée des personnes, du nombre de personnes qui vont venir ?
Non, nous, quand on a fait notre bilan, alors ici, on fait une espèce de statistique qui n'est pas très scientifique, parce qu'on note pas au jour le jour, mais c'est vrai qu'on peut penser sur du 15 000, 20 000 personnes. C'est ce qu'on pense, dans le sens, pour avoir vécu d'autres événements. On pense qu'il y aura plus de monde, mais on a ciblé là-dessus sur ce qu'on a organisé aussi, par exemple, comme livrets qui sont à l'impression en ce moment, qui ne sont pas encore sortis. Il fallait qu'on se bloque un chiffre et on a ciblé sur ce nombre-là. Après, je ne pense pas qu'il y ait une personne dans Rome qui soit capable de donner le nombre exact de pèlerins qui sont ici. Hein. On dit tout, on dit 1 million, on dit 2 millions, on dit 5 millions...
Certains qui voudraient encore venir, est-ce que il vaut mieux qu'ils suivent ça de chez eux ou c'est encore possible de participer à cet événement ?
C'est encore possible, hein, dire restez chez vous, regardez à la télévision, c'est un petit peu dommage. Puis nous ici, on n'est pas là pour répondre comme ça. C'est-à-dire que si vous me demandez une maison religieuse au centre de Rome, pas chère et surtout au calme, ben je vous dirais non. Mais si vous me dites est-ce que on peut aller planter la tente, est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un camping ? Oui. Donc physiquement, je pense que ça sera pas facile. Parce que c'est comme tous les mouvements de foule et les rassemblements. Plus il y a de personnes, plus c'est difficile de s'organiser. Pour la place Saint-Pierre, c'est, à chaque fois, c'est comme ça. Il faut coucher derrière la barrière pour pouvoir être place Saint-Pierre. Après ça, il y a des écrans géants. C'est pour ça que nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve aussi des lieux où les gens puissent être accueillis d'une meilleure façon. C'est-à-dire que physiquement, je pense que ça sera moins dur de participer à Saint-Louis-des-Français que de passer une nuit à la barrière de place Saint-Pierre.
Bernadette Vita, responsable du centre pastoral d'accueil de Saint-Louis-des-Français à Rome, interrogée par Audrey Radondi. Le pape François a demandé ce lundi matin aux communautés salésiennes de mener une vie austère et évangélique, proche des pauvres, et de gérer leurs biens de manière responsable et transparente, dans la fidélité au charisme de leur fondateur Saint-Jean Bosco, qui prônait le travail et la modération, le sens de la mesure et la simplicité. Le Saint-Père recevait les participants au chapitre général des Salésiens, réunis jusqu'au 12 avril à Rome. Son discours était en grande partie consacré aux attentes des jeunes et aux défis qu'ils doivent relever. L'évangélisation et l'éducation des jeunes constituent en effet la mission principale des disciples de Don Bosco. Le pape François a exprimé en particulier son inquiétude par rapport à la crise de l'emploi. 75 millions de jeunes sans emploi en Occident, c'est terrible, a-t-il lancé le compte-rendu de son discours avec Olivier Bonnel.
En travaillant auprès des jeunes, les Salésiens côtoient l'exclusion, les graves conséquences du chômage, les multiples addictions qui dérivent du manque d'amour authentique. Il ne faut pas pour autant se laisser emporter par l'enthousiasme, avertit le pape François, et envoyer sur le terrain des personnes, certes de bonne volonté, mais qui ne sont pas aptes à ce genre de mission. Pour aller à la rencontre des jeunes marginaux, il faut du courage, une grande maturité et la prière. Autre mise en garde du souverain pontife aux Salésiens, il ne faut pas présenter la vocation religieuse comme un choix humanitaire. Le risque est de susciter des vocations fragiles, soutenues par de faibles motivations, qui ne font pas de bien aux instituts. La géographie des vocations a changé, de nouvelles exigences ont surgi en matière de formation, d'accompagnement et de discernement. De manière plus générale, le pape François exhorte les Salésiens à répondre à l'urgence éducative actuelle. Il faut préparer les jeunes à œuvrer dans la société selon l'esprit de l'Évangile, en faire des artisans de justice et de paix. La recherche de nouveaux langages est utile, mais il ne faut jamais oublier toutefois que le langage fondamental pour approcher les jeunes est celui de l'amour. Le Saint-Père reconnaît que les communautés religieuses sont parfois agitées par des tensions, exposées au risque de l'individualisme et de la dispersion, en quête de communication profonde et de relations authentiques. Et pourtant, la fraternité vécue en communauté et le témoignage efficace de la force humanisante de l'Évangile.
J'ajoute que mardi dernier, le chapitre général des Salésiens a élu comme nouveau recteur majeur et 10e successeur de Don Bosco dès le premier tour de scrutin, le père Angel Fernandez Artimé, jusqu'ici provincial d'Argentine Sud. Le nouveau supérieur des Salésiens est un Espagnol âgé de 53 ans. Les participants ont également élu leur nouveau conseil général. Toujours ce lundi matin, le pape François est intervenu une nouvelle fois en faveur de la Syrie, un conflit oublié. Le Saint-Père a reçu en audience le nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari, venu lui parler de la situation dramatique dans laquelle se trouve la population syrienne. À sa sortie, Mgr Zenari a parlé d'une rencontre extraordinaire, touchante et émouvante. Il en est ressorti encouragé. Une audience d'une demi-heure au cours de laquelle il a pu présenter au pape François les angoisses, les souffrances et les espoirs d'une nation martyre que le souverain pontife porte dans son cœur et qu'il suit de très près. Interrogé par nos confrères de la rédaction italienne, Mgr Zenari a expliqué qu'il avait fait le voyage jusqu'à Rome parce qu'il a constaté que le conflit syrien, comme tant d'autres, commençait à être oublié et cela lui fait très mal. Or, en Syrie, tout le monde admire le pape, chrétiens et musulmans, autorités et simples citoyens. Le pape François a chargé le nonce de se faire l'interprète de sa proximité auprès de toute la population qui souffre, de lui dire sa sympathie et sa solidarité. Selon Mgr Zenari, le conflit syrien traverse une période délicate et critique et il est difficile de prévoir la suite des événements. Dimanche, deuxième tour des élections municipales en France et un record historique pour le chiffre de l'abstention à plus de 36%. Une première sous la 5e République pour un second tour. Et pourtant, ce scrutin des municipales est généralement prisé des électeurs français. Mais cette abstention s'inscrit dans une tendance à l'augmentation à tous les types d'élections, avec une petite exception pour l'élection présidentielle. Le père François Heuvé est le rédacteur en chef d'études, la Revue des Jésuites français. Selon lui, ce record d'abstention et sa hausse ne signifie pas forcément un désintérêt pour la politique comme telle, mais plutôt un désintérêt pour les grands partis.
Il y a un certain intérêt, mais on ne sait pas très bien sur qui on peut compter, qui on peut faire confiance pour la gestion du pays. C'est ça qui est inquiétant pour l'avenir.
Mais on peut dire quand même qu'ils font toujours confiance à l'acte en lui-même de voter.
Oui, je pense que ça ne signifie pas un désintérêt pour la démocratie comme telle. Je pense que les gens sont conscients que le fait de pouvoir voter, ce n'est pas le cas partout maintenant, malheureusement, le fait de pouvoir voter est quand même un plus pour la vie ensemble. C'est vrai qu'il peut y avoir une certaine difficulté devant les grandes questions d'un monde devenu de plus en plus complexe. Et la difficulté ou la capacité, pour une part, des grands partis à pouvoir répondre à ça. Les gens sentent bien que beaucoup de paramètres dans les évolutions du monde actuel et qu'une partie de ces évolutions, les causes d'une partie de ces évolutions nous échappent parce que c'est l'économie mondialisée, parce que tout est interconnecté. Donc ça aussi, ça peut jouer. Le sentiment que finalement, le citoyen de base n'est plus vraiment maître de son destin. Est-ce que ce n'est pas une difficulté par rapport au mode de fonctionnement démocratique que nous connaissons actuellement ? Peut-être pour une part, effectivement. Alors, à côté de ça, beaucoup de gens s'engagent au niveau associatif, au niveau local, pour des activités très ponctuelles, ou même dans l'entreprise. Pour le coup, il y a encore un certain engagement au niveau individuel, hein, dans l'action associative ou dans l'action vraiment locale. Mais c'est plutôt la dimension politique qui est effectivement problématique.
Et donc, on peut parler d'une abstention qui serait plutôt multiples, qui dépendraient un petit peu du vécu de chacun, ou peut-être il y en a, on pourrait dire, des élites qui voudraient plus faire passer un message, tandis que certaines personnes montreraient un petit peu leur difficulté à suivre un petit peu le débat politique.
On a sentiment de plus en plus d'une classe politique qui se reproduit elle-même. Les acteurs de cette politique sont tous passés par les mêmes filières et n'ont jamais été vraiment en contact avec un terrain, avec une action très à la base. Alors, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, mais même s'ils ont eu des responsabilités locales, beaucoup de gens ont le sentiment, à tort ou à raison, je pense malheureusement pour une part à raison, que ce monde politique vit dans son univers et ne voit la vie réelle qu'à travers des statistiques, à travers des chiffres assez abstraits finalement. Que finalement, les hommes politiques ne peuvent pas comprendre leurs difficultés au quotidien parce qu'ils ne les ont jamais éprouvées. Ils n'ont jamais été au chômage, Ils n'ont jamais connu la recherche d'emploi, la recherche de logement, faire des économies pour ses achats. Et les discours du Front National ont un certain succès à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément que les gens du Front National aient plus d'expérience de ça, mais ils donnent le sentiment d'être plus en résonance avec les questions quotidiennes des personnes. En particulier, pour revenir sur des événements politiques d'il y a quelque temps, ces réformes dites sociétales, mariage pour tous, euthanasie, etc., c'est pas les premières questions des gens. Pourquoi est-ce qu'on dépense son énergie, qu'on passe du temps à discuter ces questions-là, alors qu'il y a des choses plus urgentes à régler? Parce que là aussi, c'est le signe, disons, de préoccupations d'une classe politique qui ne correspondent pas aux préoccupations effectives des citoyens.
Le père François Heuvé, rédacteur en chef de la revue Études, interrogé par Audrey Radondi. Les épiscopats catholiques des États-Unis et du Mexique unissent leurs forces pour attirer l'attention sur la situation dramatique des migrants clandestins. À l'initiative du Comité pour les migrations de la Conférence des évêques des États-Unis, une rencontre se déroule ces jours-ci dans l'État de l'Arizona, à la frontière entre les deux pays, fermée sur une large partie de sa longueur par un mur, parfois renforcé de fils barbelés. Jean-Baptiste Cocagne.
Depuis 1998, près de 6000 latino-américains qui ont voulu passer de l'autre côté ont perdu la vie dans le désert. Les promoteurs de cette initiative veulent mettre l'accent sur la souffrance causée par un système migratoire ruineux et sous-estimé. Parmi les participants, le cardinal Sean O'Malley, l'archevêque de Boston, un des 8 cardinaux conseillers du pape François. Il y a quelques jours, il a comparé cette frontière américano-mexicaine à l'île sicilienne de Lampedusa, où le Saint-Père avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Malgré l'augmentation du nombre de victimes, malgré les caméras de surveillance, les douaniers aux aguets, la multiplication des patrouilles et des bandes armées de trafiquants, le flot incessant de migrants ne tarit pas. Ils viennent du Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique. Chaque année, en moyenne, 400 cadavres sont retrouvés dans la zone. Chaque année, 30 000 mineurs non accompagnés traversent la frontière. Et actuellement, quelques 40 000 migrants illégaux sont détenus dans les prisons américaines, ce qui représente un coût de 2 milliards de dollars pour les contribuables américains. Quant aux cartels de la drogue, ils ont creusé des tunnels sous la frontière. Ce mardi, à 9h locale, les évêques des États-Unis et du Mexique concélébreront l'Eucharistie en mémoire des milliers de personnes mortes en cherchant une vie meilleure.
En novembre dernier, l'évêque d'El Paso au Texas et celui de Ciudad Juárez au Mexique avaient concélébré une messe inédite, l'autel étant divisé en deux par le grillage métallique délimitant la frontière. Et puis samedi dernier, les autorités mexicaines ont annoncé qu'elles avaient trouvé plus de 370 enfants de différents pays d'Amérique centrale abandonnés par des trafiquants qui essayaient d'entrer aux États-Unis. Dans plusieurs cas, les enfants ont été abandonnés à des points de passage dangereux ou difficiles par des guides qui avaient été payés de 3 000 à 5 000 dollars. Les enfants ont montré des signes de fatigue extrême, avaient des blessures aux pieds et souffraient de déshydratation. Ils ne savaient plus où ils avaient été abandonnés. Le nombre d'enfants migrants en voyageant seul à travers le Mexique pour rejoindre les États-Unis a considérablement augmenté au cours de ces derniers mois. Rome accueille jusqu'au 2 avril un symposium international sur diplomatie et religion. Les participants réfléchissent à la promotion de la paix mondiale à travers le dialogue interreligieux et l'unité entre les croyants. Les échanges entre les religions peuvent, selon les organisateurs, promouvoir un monde de paix et de stabilité et avoir un impact positif sur la société. Contrairement aux idées reçues qui voient dans les religions des sources d'exclusion et de violence, on constate que la foi tend à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Le symposium se propose de le prouver. Politiques, diplomates, universitaires, membres de la société civile, jeunes professionnels, étudiants ont été invités à participer à cette initiative aux côtés des leaders religieux et spirituels. Parmi les participants, l'ancien ministre italien des Affaires étrangères Franco Frattini, le grand mufti de Bosnie-Herzégovine, le sultan de Sokoto au Nigeria, le métropolite orthodoxe de Tallinn en Estonie, le président de l'Union des bouddhistes de France ou encore l'archevêque catholique d'Oristano en Italie. Je vous laisse sur ce tweet du pape François, le carême et le temps pour changer de cap, pour réagir face au mal et à la misère. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.